Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aux dents, on peut associer aussi bien la bonne humeur et la gourmandise, croquer la vie à pleines dents, que ces mêmes dents peuvent être évocatrices à l'inverse de la douleur, de la carie, la rage de dents. Les soins que nous portons à notre dentition jouent un rôle déterminant sur notre séduction, mais aussi sur notre parole, notre élocution, comme notre alimentation, notre mastication. Et pour veiller à conserver des dents en bonne santé, les soins bucco-dentaires sont importants, et pas seulement en cas de crise ou d'infection, non. Pour garder une bouche saine, la prévention et le suivi sont essentiels, tout comme chez soi, des gestes indispensables d'hygiène, intégrer un brossage régulier étape par étape, éviter le tabac, opter pour une alimentation équilibrée et savoir réagir en cas de traumatisme. Trouver aussi un bon spécialiste et peut-être aussi mettre ses craintes entre parenthèses pour avoir le courage de franchir, oui, la porte du cabinet du dentiste, s'asseoir sur son impressionnant fauteuil et confier la santé de votre bouche, tout simplement pour retrouver votre meilleur sourire. Comment éviter les caries? Quels sont les outils et les gestes indispensables pour prendre soin de ses dents? Quelles sont les bases en matière de prévention? Nous retrouvons en ligne le professeur Marjolaine Gosset. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parodontiste à l'hôpital Charles Foy à Ivry-sur-Seine en région parisienne, professeur des universités à l'université Paris-Cité. On retrouvera tout à l'heure le docteur Aimé-Désiré Caboret, président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Burkina Faso, le docteur qui est professeur agrégé à l'université Joseph Kizerbo de Ouaga et sur place aussi directeur du Centre municipal de santé bucco-dentaire. Et puis la revue 60 millions de consommateurs consacre un hors-série de pas moins de 100 pages à la santé des dents, les bons gestes, le bon praticien, quel budget ou encore les bons produits. Nous donnerons la parole à sa rédactrice en chef adjointe, Sophie Kwan. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique sexualité du docteur Catherine Solano.
Priorité santé sur RFI.
Des dents, des gencives en bonne santé au centre de cette émission avec, oui, c'est bien elle, l'ennemi numéro un du sourire, la carie dentaire. Professeur Gosset, comment cette carie se développe-t-elle?
La carie, c'est la résultante d'une utilisation par des bactéries de la bouche qui vont rester suite au brossage, de sucres qui sont apportés par l'alimentation, d'où l'importance du brossage après avoir mangé, et qui vont produire des petits acides, et ces acides dégradent l'émail, qui est la coque minérale de la dent, pour au fur et à mesure la léser, rentrer dans la couche sous-jacente qui est moins minéralisée, qu'on appelle la dentine. Et sous la dentine, il y a le nerf. Et donc, c'est là que ça commence à faire mal et à créer des infections qui peuvent se propager dans la racine.
Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, professeur, entre la plaque dentaire ou le tartre et cette carie dentaire?
La plaque dentaire, c'est vraiment les bactéries de la bouche qui peuvent avoir des compositions différentes, donc des rôles dans des maladies différentes, mais c'est vraiment le facteur qui initie les maladies. Donc, le contrôle de la plaque dentaire, d'où le brossage, c'est vraiment l'enjeu pour préserver une bonne santé bucco-dentaire.
Alors, il y a une question sur Facebook de Mounir des Comores qui demande s'il faut effectuer un détartrage tous les 3 mois. Qu'est-ce que vous en pensez?
En population générale, si on n'a pas de maladie particulière de santé générale ou de maladie particulière de gencive, donc de parodontite, un brossage par an est conseillé, à part si on a des difficultés à brosser et qu'il y a plus de tartres qui se forment. Dans ce cas-là, on peut y aller tous les 6 mois. Chez certaines personnes qui ont des maladies de déchaussement de dents, il faut encore avoir un suivi plus particulier par le dentiste pour nettoyer les zones qui sont difficilement accessibles. Et là, ça peut être jusqu'à tous les 3 mois.
Tous les 3 mois donc. Et en termes de santé des gens, le grand public est familiarisé avec votre profession de dentiste. Il y a quelques minutes, quand je vous ai présenté, j'ai dit parodontiste. C'est quoi la différence en termes de pratique, de spécialité vis-à-vis de vos confrères ou consoeurs?
Alors, dentiste, on est tous dentistes de formation initiale, amenés à soigner tous les tissus de la bouche, les dents, les gencives et autres. Certains font des spécialités qui sont reconnues, ça dépend des pays. Donc, il y a par exemple la chirurgie orale ou l'orthodontie. La parodontologie, c'est la discipline qui va viser à traiter tous les tissus de soutien qui entourent la dent et qui permettent l'attache et la tenue de la dent dans la bouche pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle puisse mâcher. Et donc, c'est la gencive et l'os, les deux grands tissus qui sont vraiment traitées par le parodontiste. Parodonte, c'est tout ce qui entoure la dent, qui s'appelle odonte, tout autour de la dent.
Et peut-être qu'un certain nombre d'auditeurs l'ignorent, professeur Marjolaine Gosset, mais la santé des dents, c'est également très important pour le bien-être général des dents, des gencives abîmées. Eh bien, ça peut avoir un retentissement important pour la santé de l'organisme tout entière.
Alors ça, c'est une évidence, j'ai envie de dire. La santé des dents et des gencives va être importante pour la santé en général. Il peut y avoir des déficits liés, par exemple, à une perte de dents, donc des défauts de mastication et une alimentation qui est déséquilibrée qui vont jouer. Mais l'inflammation ou l'infection qui peuvent être propagées depuis la bouche, liées aux caries sévères qui entraînent l'infection des racines ou les maladies de gencives, vont être des cofacteurs de maladies telles que les maladies cardiovasculaires, donc pouvant emmener un infarctus, à une rupture d'anévrisme, à du diabète, etc. C'est un cofacteur, par contre. Hein. Il faut pas, c'est pas parce qu'on a une carie qu'on va avoir un infarctus qui suit. Mais ça joue dans un ensemble d'autres cofacteurs qui sont, par exemple, la sédentarité ou donc le fait d'être peu actif ou d'avoir une alimentation déséquilibrée.
Et c'est vrai que ça doit motiver hein, certains qui nous écoutent ou certaines qui nous écoutent et qui se disent « moi, j'ai peur d'aller chez le dentiste » avec ses conséquences, bien sûr, qui sont extrêmes de complications que vous venez d'évoquer. Ça peut motiver de surmonter, par exemple, la crainte de l'anesthésie ou la crainte de la roulette. Professeur Marjolaine Gosset, alors dans cette émission, on va essayer de donner la place aux questions des auditeurs. Et tout de suite, on va prendre une première question pour cela. On va partir pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et je n'en fais pas mystère, ça arrive hein, quand vous écoutez en direct les émissions de RFI. Des fois, on a du mal à joindre tout simplement ces auditeurs qui nous ont d'abord appelé, posé des questions, échangé avec toute l'équipe de Priorité Santé. C'est le cas en ce moment. Donc, pour l'instant, c'est moi la porte-parole de vos questions. Cette première question, elle est signée Karine. Karine d'Abidjan donc, et qui a une question au sujet de sa petite fille qui a 3 ans. Alors, on lui a conseillé de lui brosser les dents, hein, cette petite fille, après chaque repas. Mais souvent, en fait, Karine reconnaît, il arrive de sauter certaines de ses occasions et ne pas lui brosser les dents le soir à sa petite fille de 3 ans. Le dentiste a par ailleurs prescrit des compléments de fluor. Elle lui en donne à sa petite fille en plus du brossage du matin. Et Karine a cette question qui vous a adressée, professeur Gosset, bien sûr. Est-ce que le brossage des dents une seule fois par jour peut être suffisant? On parle en l'occurrence là d'une petite fille qui a 3 ans.
Il est vraiment conseillé de faire 2 brossages par jour, puisque vraiment c'est comme ça qu'on va contrôler tous les résidus alimentaires et les dépôts de plaques dentaires qui existent autant dans l'enfance que dans l'âge adulte. Et l'enjeu est aussi d'acquérir une habitude d'hygiène bucco-dentaire pour les enfants et que pour eux, c'est une évidence qu'il faille se brosser les dents matin et soir. Et ça, c'est vraiment aussi un point qui est très important d'un point de vue éducatif.
Et justement, donc, ce conseil, c'est pas parce qu'on donne, par exemple, des cachets au fluor, comme peut-être le sous-entend ce message de Karine, que ça prive de cette nécessité du brossage le soir.
Pas du tout, parce que c'est 2 objectifs différents. Le brossage, ça va être de désorganiser la plaque dentaire et les aliments. Le fluor qu'on va prendre va jouer sur les dents qui sont en cours de formation. Et ces dents qui sont dans la bouche, déjà, sont formées. Donc, c'est les dents de lait, les dents temporaires. Les dents qui sont en cours de formation sont celles qui sortiront après, à partir de 6 ans, au niveau des incisifs, par exemple, puis après les prémolaires, les molaires, etc. Et donc, c'est sur l'édification de ces dents que ça joue. Et donc, il ne va pas y avoir la même action attendue.
Alors, dans un même ordre d'idées, toujours sur la page Facebook de Priorité Santé, il y a Erson qui est à Kinshasa qui demande si les enfants qui ont des dents de lait doivent également avoir une hygiène bucco-dentaire. Je connais votre réponse.
Ben oui, tout à ben fait, oui. Il faut avoir une hygiène bucco-dentaire. Et puis les dents de lait, elles se carient comme les autres. Et parfois, les petits, ils ne savent pas bien l'exprimer parce qu'ils sont petits. Ça veut dire quand même qu'ils ont des qualités de vie qui sont moins bonnes parce qu'ils souffrent, ils ont mal et autres sans savoir
pourquoi
vraiment
forcément
bien l'exprimer. Donc c'est dommage. Voilà. Et puis à soigner, c'est plus difficile quand on est tout petit aussi.
Mais c'est vrai que certains parents peuvent avoir besoin de conseils parce qu'un petit, un tout petit qui court quand on approche la brosse à dents, ça peut être compliqué à gérer en famille le soir.
Ça, c'est sûr. Après, le message aussi, c'est qu'effectivement, les parents doivent être accompagnés le brossage de leur enfant, donc leur laisser au fur et à mesure une autonomie. Et puis au début, s'ils jouent même un peu avec la brosse, c'est pas très grave. Mais le parent doit passer derrière pour lui faire le geste efficace, et ça jusqu'à 6-7 ans. Donc même quand l'enfant semble être capable d'un point de vue moteur, donc être capable de faire des mouvements de brossage, souvent ils sont la brosse à dents est un peu grande et pas aussi efficace que ce qu'il faudrait.
Ça veut dire qu'il faut quand même à la fois de la patience et de la persévérance. On a bien compris pour Erson Kinshasa, ne baissez pas la garde devant le petit qui se rebelle face à la brosse à dents. Tenez bon, il aura des belles dents, ça vaut le coup pour un sourire plus tard. Alors je continue parce qu'on a des déboires avec notre standard, je le dis carrément. On est entre nous, mais pour autant, on vous donne la parole. On devait avoir Didier du Congo-Brazzaville. Écoutez bien, c'est moi qui vais faire la voix de Didier, qui est à Pointe-Noire. Alors Didier, une à deux fois par semaine, il se brosse les dents avec divers matériaux. On va dire que Didier, il va un petit peu fouiller dans les placards ou dans les tiroirs pour se brosser les dents. Alors, du sel, du charbon. Il a entendu dire que c'était bénéfique pour la santé. On lui a aussi parlé des bienfaits du jus de citron. Il a l'impression, lui, que ça nettoie plutôt bien. Il explique par ailleurs que le sel, il n'en abuse pas vraiment parce que ça peut frotter, endommager les dents. Et puis le reste du temps, il utilise du dentifrice, mais pas seulement. Il utilise aussi du savon solide, on va imaginer ça, du savon corporel. Alors, il vous demande ce que vous en pensez de toutes ces recettes. Il se demande si ça peut être efficace et reconnu par la science. Professeur Gosset, donc notre auditeur Didier, donc qui a détourné divers produits et ingrédients. On va passer en revue ces recettes, hein, parce que point par point, il n'est pas du tout question de juger ni de se moquer, mais bien d'indiquer le charbon. C'est vrai qu'on entend souvent parler de ce charbon. Il y a même des recettes de dentifrice en Europe avec un marketing assez spécial, des paquets noirs, dentifrice au charbon. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, je n'ai pas d'expérience et de connaissance vraiment sur le charbon, donc je vais avoir du mal à témoigner. Mais ce qui veut dire aussi que le côté scientifique ne parle pas du tout de ce type de...
C'est pas éprouvé en tout cas, voilà. Il n'y a pas eu de test qui prouve que c'est bon ou mauvais. Donc on attend plutôt qu'il y ait des tests qui prouvent que c'est bon et jusqu'à preuve du contraire, ce qui marche plutôt, c'est le dentifrice fluoré, hein.
Oui, voilà. L'idée, c'est que, en fait, le brossage, c'est à la fois la façon de désorganiser en frottant la plaque dentaire, mais à la fois une façon d'aborder des agents chimiques. Et dans les agents chimiques, il y en a de multiples, hein, même dans les dentifrices. Mais celui qui vraiment a fait ses preuves d'un point de vue scientifique, en politique de santé, etc., c'est le fluor. Et là, il n'y en a que dans les dentifrices. Donc, il faut vraiment continuer à utiliser un dentifrice avec du fluor.
Je continue avec ma petite liste de courses. J'ai l'impression de faire une vinaigrette. Le sel et le citron, qu'est-ce que vous en pensez pour les dents ?
Alors, le sel, souvent, ça va être utilisé et peut avoir un effet quand les gencives sont très inflammatoires. Parce qu'inflammé veut dire qu'il y a de l'œdème, donc de l'eau à l'intérieur de la gencive. Et quand on met du sel, c'est un peu comme quand on dessale des concombres, ça va sortir.
Ça dégorge.
Après, la gencive, elle est inflammée parce qu'il y a de la plaque dentaire. Et donc, sans sel, si le brossage devient bien efficace et s'il y a des détartrages, l'action va se faire. Donc, voilà. Le citron, c'est souvent utilisé parce que, en fait, ça va avoir un effet d'acidité et l'acide, ça détruit les minéraux de l'émail. Donc, ça fait fondre l'émail de la dent. Ça enlève ainsi les taches qui sont présentes à l'extérieur. Ça les blanchit un peu, mais comme ça fait fondre, ça l'enlève et ça crée des érosions. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'à terme, les dents perdent leur volume, la dentine n'est plus protégée, le nerf n'est plus protégé, on peut avoir des morts de dents, etc.
Ça récure carrément.
Donc le citron, c'est quelque chose
à déconseiller.
Et les sodas, dans le même message, les sodas, les boissons acides, toutes ces choses-là, on évite d'en consommer de façon abusive.
Est-ce qu'il est conseillé d'utiliser, bon, en dehors des désagréments du goût, hein, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais croqué dans un savon, j'ai vu ça dans une bande dessinée, dans Lucky Luke, avec Avril Dalton qui mange du savon, mais est-ce que c'est conseillé d'utiliser du savon corporel pour se laver les dents ?
Je n'ai pas non plus d'expérience et de connaissance dessus, mais ça ne me paraît pas optimal non plus.
Parce que ce n'est pas un produit après, à la base qui a des liens alimentaires. Hein. On évite ce genre de produit dans la bouche.
Bah voilà, exactement. Je pense que ce n'est pas forcément fait pour cet usage. Ça peut être du coup un peu ingéré, ce n'est peut-être pas optimal. Et puis, il n'y a toujours pas ce fluor qui nous est nécessaire.
On a bien compris le message. On va donc se tourner vers le bon vieux dentifrice fluoré classique. En tout cas, on remercie Didier pour sa question. C'est vrai que les produits, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver parce que dans certains contextes, il y a énormément de choix. Peut-être que dans d'autres, c'est l'inverse. Il n'y a pas assez de choix. La brosse, le dentifrice, les produits de blanchiment, ça se vend même. Autant de sujets qui sont passés au crible par la rédaction de 60 millions de consommateurs dans un hors-série qui sort tout juste, près d'une centaine de pages. On retrouve en ligne la rédactrice en chef adjointe de cette revue de l'Institut national de la consommation, Sophie Kwan, bonjour.
Bonjour.
On va dire que c'est très pédagogique, hein, comme d'habitude, votre revue, il y a des conseils pratiques. Est-ce que c'est la première fois que votre magazine traite ce sujet ?
Alors tout à fait, c'est la première fois qu'on traite le sujet des dents et c'est un sujet finalement de consommation majeure puisque d'une part il existe énormément de produits pour l'hygiène bucco-dentaire et ensuite énormément de craintes des consommateurs de rencontrer des dentistes peu scrupuleux, d'aller dans des centres dentaires qui vont leur abîmer les dents, donc énormément de questions également des consommateurs, d'où l'intérêt de ce hors-série.
Alors c'est vrai que les produits bucco-dentaires, ça fait partie de notre quotidien. Et ce que vous montrez, c'est que certains sont carrément à éviter.
Ah oui, tout à fait. Alors ceux sur lesquels on a le plus de doutes, ce sont les produits de blanchiment. Pourquoi ? Parce que d'une part, certains sont vraiment abrasifs et donc risquent d'abîmer les mailles. Et puis, certains peuvent être très dosés en principe actif. Donc le principe actif, c'est le peroxyde d'hydrogène. Son dosage est très réglementé en France, par exemple, et en Europe. Mais si on va chercher des produits de blanchiment sur des sites internet, là, on peut trouver des produits très dosés dans ces substances-là qui devraient être utilisés que chez le dentiste, donc avec énormément de précautions. Et si vous les utilisez à la maison, vous pouvez avoir des inflammations et vous pouvez vraiment vous faire mal au niveau de la bouche. Donc là, on tire vraiment la sonnette d'alarme. Concernant les produits de blanchiment qu'on trouve dans le commerce, qui sont parfois très chers, 30 à 40 euros, qui vous vendent de gagner 8 teintes de blanchiment de vos dents, de retirer 10 ans de tâches, etc. La quantité de principe actif est tellement faible qu'il est fort peu probable que ça fonctionne. Et là, on épingle le fait qu'il y a beaucoup de fausses promesses pour des produits qui sont quand même assez chers.
En général, on met en garde contre les produits miracles, y compris à l'heure où le sourire est roi sur les réseaux sociaux. Attention aux compositions des produits. Et puis, autre chose, c'est vrai que c'est pas, ça dépend vraiment des contextes, mais choisir le bon dentiste, rester vigilant parce que il y a des soins d'accord, mais pas n'importe lesquels et pas à n'importe quel prix.
Ah oui, tout à fait. Alors, on peut être parfois impressionné face au dentiste qui est l'expert et nous, on n'y connaît rien finalement aux dents, mais néanmoins, on lui livre notre bouche et notre dentition. Donc, nous avons absolument notre mot à dire. Si vous sentez que le dentiste, vous arrivez au cabinet, il vous demande tout de suite une radio panoramique sans même avoir regardé vos dents. Méfiance, petite puce à l'oreille. Si il vous pousse vers des soins coûteux, très rapidement, qu'il ne vous laisse pas le temps de réfléchir, est-ce que vous avez envie de prendre cette option ou pas ? Méfiance, arrêtez-le, demandez-lui de vous expliquer mieux les soins qu'il prévoit, est-ce qu'on ne peut pas conserver la dent au maximum, et demandez-lui un devis. Et là, vous arrêtez la consultation et vous demandez un second avis. Ce n'est pas évident à faire. J'en suis bien consciente. Parfois, on a eu du mal à trouver un rendez-vous chez le dentiste. Mais c'est le meilleur moyen de protéger ses dents et d'avoir des soins parfois moins coûteux.
Et avec, dans un pays comme la France, on voit un petit peu qu'ils ouvrent dans les grandes villes. On voit des vitrines parfois un peu tapageuses. Ces centres dentaires, qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Oui, alors ce sont des centres dentaires associatifs. Ils s'ouvrent comme des petits pains. Il y a eu 250 ouvertures de centres depuis 6 mois en France. Que faut-il en penser ? Bah, écoutez, il y en a des corrects et puis il y en a des très mauvais. Disons que certains font une course à la rentabilité. Et comment rendre les soins dentaires rentables en proposant aux gens des prothèses et des implants. Donc ça veut dire que quand vous allez dans ces centres-là, on pourra peut-être parfois vous arracher plus facilement une dent qui aurait pu être conservée avec des soins pas chers. Voilà, donc méfiance vis-à-vis de ces centres-là. N'hésitez pas à appeler l'ordre des médecins quand vous êtes en France, l'ordre des dentistes. Ils peuvent vous dire quelle est la formation du dentiste que vous avez rencontré et vous dire si sa formation est valable ou pas. Voilà, ça peut être également une façon de bien choisir son dentiste.
Et des conseils à retrouver donc dans ce hors-série de 60 millions de consommateurs spéciales dents. Merci beaucoup Sophie Kwan d'avoir répondu à nos questions. Nous avons toujours avec nous le professeur Marjoline Gosset, parodontiste à l'hôpital Charlefoix à Ivry-sur-Seine en région parisienne et une auditrice en ligne. Bonjour, c'est à Kédougou au Sénégal que l'on vous retrouve. Koumba, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, ce qui vous préoccupe, Kumba, c'est la teinte de vos dents. Expliquez-nous.
Voilà. Ce qui me préoccupe, la première, c'est le jaunissement de mes dents. Il y a 3 ans de cela, bon, j'avais des dents toutes blanches. Mais maintenant, j'ai remarqué que mes dents ont jauni. Et je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cela?
Alors, vous avez les dents qui ont changé de teinte. Est-ce que vous avez également d'autres problèmes en matière de santé dentaire, par exemple des caries?
Oui, j'ai des caries.
Vous avez consulté un dentiste, Kumba?
Bien sûr, tous les mois.
Tous les mois, bah dis donc, c'est un bon suivi. Qu'est-ce qu'il a dit, ce dentiste, par rapport à la teinte de vos dents? Est-ce qu'il a pu vous donner des éclaircissements? Est-ce que vous avez changé certaines habitudes? Bu plus de café? Peut-être fumé des cigarettes? Ou même pris certains médicaments? Est-ce qu'il y a eu des changements?
Bon, non, je ne lui ai pas posé de questions par rapport au jaunissement de mes dents.
Je peux vous demander pourquoi vous ne lui avez pas demandé? Est-ce que vous étiez un petit peu timide par rapport à ça?
Oui.
Vous trouvez que ce n'est pas un vrai problème? Parce que pour vous, c'est une question esthétique. Vous pensez peut-être que c'est, comme on dit, futile, un peu superficiel, c'est ça? Vous ne voulez pas l'embêter avec ce genre de problème esthétique?
Voilà, c'est ça.
Oui, je me suis mise à votre place un petit peu. Professeur Marjolaine Gosset, pourtant c'est une question tout à fait légitime que se pose Kumba. Si en 3 ans, on voit ses dents qui changent de teinte, on a le droit, et c'est normal finalement de se poser la question.
Bien sûr, il faut se la poser et la poser au dentiste qui pourra essayer de comprendre ce qui se passe et accompagner ou traiter en fonction de l'origine.
Parce que Kumba explique qu'elle se brosse bien les dents 2 fois par jour. Qu'est-ce qu'on peut lui présenter comme piste? Pourquoi ces dents peuvent avoir ainsi changé de teinte?
Alors, c'est toujours très difficile, effectivement, sans consultation, mais il y a un vieillissement, entre guillemets, des tissus, de l'émail, de la dentine qui font que ça peut se saturer par l'environnement alimentaire. Il peut y avoir aussi une fonte de la dent aussi, parce qu'il y a un reflux d'acide, reflux gastro-œsophagien, ou une consommation de beaucoup d'acides qui font fondre l'émail. L'émail, c'est la coque qui est très translucide, et la dentine qui est sous-jacente est beaucoup plus jaune foncé. Et donc, du coup, ça crée des teintes plus jaunes avec le temps. Donc, ça peut dépendre de ces éléments-là.
Voilà, on merci beaucoup Kumba pour son appel. On reste au Sénégal, c'est à Podor que l'on retrouve maintenant Ousmane qui est avec nous, que l'on va rejoindre dans quelques petites secondes dans cette ville de Podor au Sénégal. Une deuxième question en provenance de ce pays. On donne tout de suite la parole à Ousmane. Ousmane, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, bonjour toutes les auditeurs de RFI.
Alors vous, c'est un problème de gencive, expliquez-nous.
Oui. Je me réveille le matin avec du sang sur mes dents, sur mes gencives plutôt. Je n'ai jamais eu maux de dents, ni de caries.
Et aujourd'hui, il y a encore des saignements ou pas vraiment?
Oui, ça c'est arrêté. Ça fait presque 3 mois. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que
ça veut dire ces saignements? Mais vous dites ça fait 3 mois que ça s'est arrêté. Vous avez changé quoi dans votre hygiène dentaire depuis 3 mois?
Non, c'est le même rythme que j'avais auparavant.
Au niveau du brossage, mais vous avez ajouté des nouveaux gestes?
Non, pas du tout. Je me brosse une fois par jour. J'utilise le cure-dent chaque jour.
Et le cure-dent, c'est récent comme utilisation ou depuis toujours?
Oui, depuis toujours.
Depuis toujours. Alors, on a un autre auditeur qui a aussi ce type de problème. C'est Enoch de Maroua au Cameroun. Il explique que chaque matin, ses gencives saignent quand il se brosse les dents. On a donc Ousmane aussi de Podor qui se demande pourquoi ses gencives ont saigné. Maintenant, ça s'est arrêté. Mais il était un petit peu inquiet de savoir d'où venaient ces saignements. Professeur Marjolaine Gosset, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces auditeurs?
Alors qu'une gencive qui saigne, c'est une gencive qui est malade. Et même si c'est ponctuel lorsqu'on brosse sur une zone ou si c'est généralisé et que c'est parfois spontané, notamment au réveil, les patients s'en rendent compte, c'est que la gencive est très inflammée. Et la gencive inflammatoire, c'est soit une gingivite, juste la gencive inflammée, l'os sous-jacent va bien, soit ça évolue en parodontite, et donc dans ce cas-là, il y a un déchaussement de la dent qui se met en place. Et c'est vraiment le signe d'appel parce que ces maladies gingivites et parodontites font rarement mal. Et du coup, on n'a pas d'autres signes d'alerte pour le patient. Et donc, le message, c'est quand ça saigne, il faut aller consulter le praticien. Et même si ça s'est arrêté et qu'il y a eu des épisodes, il faut y aller. Après, il y a des choses qui masquent le saignement. Par exemple, le tabac. Consommer du tabac va diminuer l'apport vasculaire, la taille des vaisseaux sanguins dans la gencive. Et du coup, va faire qu'il y aura moins de saignement, alors que la condition d'hygiène ou de tarte présente sur les dents n'a pas changé.
Voilà pour ces conseils et ces explications. On remercie beaucoup Ousmane pour son appel. Et on va vous retrouver, professeur Gosset. On va retrouver bien sûr d'autres auditeurs en ligne. Ce sera juste après ce titre d'Aretha Franklin, notre chouchoute, Chain of Fools. Chain, chain, chain. Priorité Santé sur RFI, émission consacrée à la santé bucco-dentaire. On est toujours avec vous, professeur Marjolaine Gosset, parodontiste à l'hôpital Charlefoix à Ivry-sur-Seine. Et nous avons un auditeur en ligne de France, d'Orléans, c'est Ibrahim. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour.
Alors vous avez 34 ans et vous, il y a un nom sur votre problème bucco-dentaire. Hein, depuis 5 ans, vous avez une parodontite, expliquez-nous.
Oui, j'ai une parodontite. En fait, moi, je l'ai découvert comme ça quand je suis allé voir un médecin qui m'a dit, là, vous avez une parodontite qui est en niveau avancé, donc il va falloir faire un nettoyage de tous vos dents, parce qu'après, sinon, vous risquez de perdre vos dents. Mmh. Donc, j'ai dû payer, c'était un peu plus cher, je crois que j'ai payé 600 euros pour faire un nettoyage global. Mmh. Et puis, depuis, tous les six mois, je suis allé obligé de faire un détartrage au niveau des dents.
Et là, c'est une sorte de détartrage d'entretien. Là, j'imagine que c'est moins coûteux pour vous, même si, bien sûr, en France, on a un système de santé qui peut rembourser certains soins. Certaines sommes assez importantes restent à la charge des patients. Est-ce que c'est moins coûteux, du coup, ce détartrage régulier?
C'est un détartrage d'entretien pour éviter qu'il y ait un déchaussement des dents. Parce que l'étude que j'ai fait, il m'avait expliqué, le médecin, qu'après ça, il faut juste faire un détartrage régulier pour éviter qu'il y ait un déchaussement des dents.
Et ça a été important, justement, cette phase d'explication avec votre spécialiste, qu'il vous fasse un petit peu la pédagogie de la santé dentaire. Est-ce que, du coup, vous acceptez mieux ces soins qui, parfois, sont carrément désagréables?
Je me suis dit que je suis très jeune et que j'avais pas trop le choix, donc du coup, je suis obligé de faire avec, quoi. Mais c'est vrai que quand il m'a dit ça, je savais pas c'était quoi la parodontie, donc au fur et à mesure, je me suis renseigné et j'ai su que c'est un déchaussement des dents, mais ça arrive aux gens qui fument, mais moi j'ai jamais fumé. Donc,
Est-ce que vous avez essayé des sortes de détartrage ou de produits, de mixture maison pour essayer d'en finir avec cette plaque dentaire?
Non, j'ai jamais fait parce que comme j'ai perdu quelques dents et puis après quand j'ai eu ça, j'évite. Donc j'essaie toujours d'être régulier, même si C'est très difficile, surtout dans certaines régions, d'avoir des rendez-vous chez le dentiste.
Mmh.
Ils peuvent des fois être 3 à 4 mois d'attente. Mmh. Donc, je suis obligé de prendre en avance pour pouvoir avoir un rythme de régulier pour consulter le dentiste.
Ibrahim, est-ce que vous avez entendu, par contre, je sais pas, sur les réseaux autour de vous, certaines recettes un petit peu miracles pour blanchir les dents? Vous en avez entendu parler?
Bah, j'avais entendu à la radio récemment que c'était dangereux, lors d'une émission à France Inter, qu'il y avait des produits dangereux.
Radio nationale concurrente que vous citez, merci beaucoup Ibrahim.
pour blanchir les dents, mais en fait à la fin, le médecin n'a pas dit c'est quoi les solutions. Il a juste dit c'est dangereux d'utiliser du citron, des produits comme ça, mais il n'a pas donné d'autres solutions. Donc moi, c'était ça ma question.
C'était ça votre question, professeur Marjolaine Gosset. En dehors bien sûr de ces soins réguliers que fait Ibrahim, donc là-dessus, pas de souci. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour avoir des dents plus blanches? Il l'a dit, c'est important, il ne fume pas.
Ben, en fait, effectivement, c'est une consultation auprès d'un dentiste qui pourra lui-même faire les éclaircissements dentaires après un bilan bucco-dentaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de caries, qu'il n'y a pas, par exemple, de couronne antérieure qui, elles, ne changeront pas de teinte pour ne pas créer d'autres désordres. Et là, lui-même fera le processus de blanchiment avec des produits professionnel, des gouttières et accompagnera le patient pour atteindre la teinte qu'il souhaite et qui est aussi raisonnable, entre guillemets, donc avec un objectif thérapeutique fixé par le praticien et par le patient. Mais c'est les dentistes font eux-mêmes les blanchiments en cabinet avec parfois des gouttières qui sont données au patient à utiliser chez lui, mais avec un suivi dentaire.
Donc Ibrahim, il va falloir reprendre rendez-vous, peut-être faire preuve d'un petit peu de patience, mais en tout cas, la solution, c'est tout simplement au cabinet dentaire. On vous remercie beaucoup pour cette question, votre témoignage, et on part maintenant pour le Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Et nous donnons la parole au docteur Aimé-Désiré Caboret. Bonjour docteur.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes le président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Burkina Faso, également directeur du Centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouagadougou. Je précise que cet entretien a été enregistré. Docteur, quel est le motif de consultation numéro 1 chez vous à Ouagadougou?
Le motif de consultation, selon les études que nous avons vues, lues ou réalisées à Ouagadougou, au niveau donc des centres de soins bucco-dentaires, reste la douleur, l'allergie dentaire liée donc à la maladie carieuse.
La fameuse carie dentaire. On parle depuis le début de cette émission des soins en cas de problème, bien sûr du suivi au long cours. Est-ce que dans votre contexte, les patients comprennent et intègrent la dimension de prévention dans le cadre de cette santé bucco-dentaire?
Alors là, vraiment pas du tout, et c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est de tenter donc de sensibiliser les autorités, j'allais dire politiques et administratives, notamment au niveau du ministère de la Santé, qui doivent porter la sensibilisation, la prévention de la maladie carieuse, parce que sinon les patients qui viennent à nos consultations arrivent lorsque cette carie a progressé pour causer une morbidité, pour causer une douleur. Et nous, au niveau donc local, nous sensibilisons tous les jours les patients pour qu'ils comprennent que cette maladie carieuse peut être prévenue.
Elle peut être prévenue. Alors, est-ce qu'il y a cette phase de conseil, de sensibilisation sur les bons gestes de l'hygiène dentaire?
Oui, c'est tellement important déjà pour le praticien qui reçoit le patient qui arrive avec une carie dentaire. C'est déjà de lui dire que la restauration qui va être faite, on appelle ça communément le plombage de la dent, ne règle pas la solution. La solution, c'est comment faire pour éviter qu'il y ait une carie dentaire. Et donc, lorsque le patient vient pour ses soins, il faut d'abord que le patient comprenne que la mauvaise hygiène bucco-dentaire est un gros facteur de risque d'installation de la maladie carieuse.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a, comme pour beaucoup de maladies sur le continent, une prise en charge en quelque sorte trop tardive? Est-ce que c'est vrai pour vous aussi les dentistes?
Totalement vrai, la prise en charge est tardive. En ville encore, on peut trouver dans la capitale Ouagadougou un centre de santé où il peut s'adresser. Mais ailleurs, c'est beaucoup plus difficile dans les périphéries, dans les régions. Si bien que la carie dentaire va évoluer vers des complications graves qui sont souvent la cellulite, la joue qui est enflée. Et cette cellulite peut être cause de mortalité, tant à Ouagadougou que dans les régions.
Justement, vous parliez des régions tout à l'heure, docteur Aimé-Désiré Kaboré. Au Burkina, quand il n'y a pas un dentiste à côté de chez soi, on s'adresse à qui? Comment on se fait soigner les dents?
Au Burkina Faso, il existe un corps d'infirmiers que nous appelons les attachés de santé en odontostomatologie. Ces attachés de santé sont des infirmiers qui ont reçu 2 années de formation à l'École nationale de santé publique. Et durant ces 2 années de formation, ils vont recevoir le B.A.B.A. de l'hygiène bucco-dentaire et l'interception des pathologies orales à leur stade. C'est ce personnel-là qui va précéder le chirurgien-dentiste. Mais il faut qu'au niveau du ministère de la Santé, tout le monde soit formé, y compris les infirmiers, les sages-femmes, les AIS, les agents de santé communautaire. Chacun à son poste où il se trouve, soit un levier pour donner l'information aux populations sur la nécessité de prévenir la maladie carieuse qui peut se compliquer.
Parce que dans un pays comme le vôtre, on compte combien de chirurgiens dentistes? On est très loin, j'imagine, des standards de l'OMS.
Très, très, très loin. Ce qui va faire un chirurgien dentiste pour environ 200 000 habitants. Les standards de l'OMS, c'est un chirurgien dentiste pour 10 000 habitants.
Donc on est à 22 fois inférieur aux critères de l'OMS. Tout à l'heure, vous disiez des conseils en termes d'hygiène. Il y a aussi d'autres conseils dans la vie de tous les jours, notamment l'alimentation et les boissons.
Dans la vie de tous les jours, il va falloir donc éviter d'autres facteurs de risque qui sont par exemple l'alimentation très riche en sucre. Lorsque les bactéries dans la cavité buccale métabolisent les aliments sucrés que nous avons dans la bouche, ce métabolisme va permettre de fabriquer de l'acide. Et le pH de la bouche, qui est censé être neutre, va baisser sous un certain seuil et devenir acide. Cette acidité va créer donc une déminéralisation, une fonte de l'émail. Cet émail va devenir poreux et c'est partout de cette porosité que va s'installer la cavitation, la carie dentaire.
Un dernier point, docteur Kaboré. Il y a aussi les comorbidités. Est-ce qu'à cet égard, certains patients doivent être encore plus attentifs, on peut dire, à la santé de leurs dents, à tout ce qui a trait à la prévention?
Ah oui, bien sûr. Il y a donc tous les patients qui ont des comorbidités, qui ont des maladies non transmissibles, comme par exemple le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, qui sont donc des maladies non transmissibles, mais qui sont des maladies qui vont exposer ces patients-là à un risque de pathologie bucco-dentaire plus élevé. Et il faut que ces patients puissent aller au cabinet dentaire pour prévenir, pour avoir un suivi de leur santé bucco-dentaire beaucoup plus régulièrement que le sujet considéré comme sain. Les patients qui sont sous thérapie, qui traitent des cancers, qui ont des ostéoporoses, qui ont des pathologies des glandes salivaires, les femmes enceintes devraient pouvoir donc aller plus régulièrement au cabinet dentaire pour assurer ce suivi et éviter donc l'installation de maladies fâcheuses comme la carie dentaire qui peut se compliquer.
La prévention avant tout. Merci pour votre éclairage, docteur Aimé-Désiré Kaboré. Très très bonne journée à Ouagadougou.
Merci beaucoup Caroline et à très bientôt.
Priorité santé sur RFI.
Beaucoup de questions d'auditeurs sur cette santé bucco-dentaire aujourd'hui. Avec vous, professeur Marjolaine Gosset, c'est peut-être aussi le signe qu'il y a certains manques en termes de praticiens, comme vient de le souligner votre confrère du Burkina, le docteur Kaboré.
Bien sûr, il y a également, que ce soit dans les pays africains, mais également en France, un problème pas forcément du nombre pour la France, mais peut-être de la répartition. Il y a des territoires où il y a vraiment un manque de dentistes extrêmement important, avec une grosse concentration dans les grandes villes, malheureusement, pour les patients qui ne peuvent pas tous bénéficier de ces soins-là.
Et c'est vrai que ça peut être carrément compliqué. On avait un auditeur, justement, d'Abéché au Tchad, qui nous a confié que lui, eh bien, il n'avait carrément pas de dentiste. Il sait qu'il souffre d'une carie, il a eu un abcès, il a pris des antibiotiques. Il a de fortes douleurs, c'est simple. Pour l'instant, il ne peut pas se faire soigner les dents. Donc, ça peut être vraiment très, très compliqué dans ces cas-là.
Mais tout à fait, puisqu'en fait, l'antibiotique va calmer l'infection, mais ça ne va pas traiter le fond du problème, la raison. Et donc, les conséquences peuvent encore se manifester sous forme aiguë, comme ça, ou simplement rester sous-jacent, mais n'être pas bon non plus pour la santé. Donc, effectivement, il y a un problème de répartition des dentistes sur le territoire qui pèse sur la santé des patients.
Et ce reportage, ce témoignage, c'est celui de Joël Dabéché du Tchad, que je viens de citer. On retrouve maintenant au Cameroun, à Bafoussam, Jojo, bonjour.
Bonjour, Madame Caroline.
Alors, vous, on va dire que certains aliments ne sont pas les bons amis de vos dents. Lesquels? Quand vous mangez quoi, ça vous fait mal?
Quand je consomme généralement les fruits tels que la mangue, les ananas, les oranges, qui contiennent d'acidité, les blessures apparaissent dans ma bouche 24 heures après. Ces blessures sont douloureuses.
C'est douloureux? Vous avez consulté un médecin ou un dentiste? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
J'ai consulté le médecin, il m'a prescrit des bains de bouche qui n'a pas marché, qui aggrave au contraire la situation.
Et est-ce qu'il a posé un diagnostic? Il a dit quelque chose sur ces douleurs dans la bouche? D'ailleurs, ces douleurs, c'est dans la bouche ou c'est sur les dents directement?
Non, au niveau de la langue et sur les lèvres, au niveau de la langue et dans les joues intérieures, dans la bouche à l'intérieur.
Il a parlé de quoi? D'abcès, de lésions, d'aphtes?
Non, le médecin m'a parlé des aphtes. Il m'a dit que ce sont les aphtes qui apparaissent.
Et il vous a donné des cachets contre les aphtes?
Il ne m'a pas donné. C'est un bain de bouche qu'ils m'ont presque, qui n'a pas du tout marché.
Professeur Gosset, il nous reste une minute environ. Notre auditeur du Cameroun, Jojo, qui a donc des aphtes, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, si ce sont bien des aphtes qui sont présents, c'est des lésions d'ulcération, en fait, comme une brûlure qui existe au niveau de la muqueuse de la bouche ou de la gencive, qui font extrêmement mal. Mais en gros, on n'a que des traitements symptomatiques. Les traitements qu'on va donner vont protéger la plaie, mais ne vont pas empêcher que ça revienne ou favoriser une cicatrisation vraiment miracle. Et donc, du coup, s'il y a des aliments qui sont associés, ce qui arrive, effectivement, certains sont connus, les noix aussi, les fromages à pâte cuite. Par exemple, on propose simplement de les éviter.
Comme les gens qui sont allergiques, on fait ce qu'on appelle une éviction, on retire tout ce qui est allergisant ou tout ce qui est irritant.
Oui, c'est à peu près ça, oui, tout à fait.
Est-ce que c'est quelque chose pour vous, Jojo, d'arrêter en fait de manger ces fruits qui vous font mal à la bouche?
C'est ça, madame. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît.
Je voulais vous demander si c'est quelque chose qui est possible pour vous d'arrêter de manger ces mangues ou ces ananas, parce que finalement, ça va revenir à chaque fois.
Oui, je me suis privé de ça puisque je n'ai pas le choix, que ce soit des jus gazeux, je me suis privé de ça puisque plus je consomme, ça sort et j'arrête de consommer et ces blessures disparaissent automatiquement.
Donc en fait, c'est la solution, c'est une question très très concrète avec finalement une solution assez simple. On vous remercie infiniment, merci beaucoup d'abord à vous, Jojo, pour ce témoignage, à tous les auditeurs, y compris ceux qu'on n'a pas eu la possibilité d'avoir en ligne, on le répète encore une fois pour des raisons techniques, ce dont on s'excuse bien évidemment. Professeur Marjolaine Gosset, un grand merci à vous d'avoir répondu aussi clairement à toutes ces questions des auditeurs de Priorité Santé, de vous être rendu disponible. Très bonne journée à vous. Priorité Santé, on parle maintenant sexualité en votre compagnie. Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Docteur Solano, sexologue, avec ces questions d'auditeurs. Une première question posée sur Facebook par Zico. Il aimerait savoir, pour augmenter la durée d'un rapport sexuel, si un homme, donc c'est donc la question de Zico, si un homme peut pratiquer une masturbation jusqu'à l'éjaculation. Ça mérite des explications.
Oui, alors effectivement, Zico a raison, c'est une technique connue et c'est une technique possible parce que quand on a une première éjaculation, la suivante mettra bien plus de temps à survenir. Donc c'est une technique qui est souvent utilisée pour avoir une éjaculation moins précoce, mais il y a un problème et c'est quand même un gros problème. C'est que c'est tout à fait possible quand on est jeune parce que quand on est moins jeune, ça marche moins bien parce qu'en avançant en âge, après une première éjaculation, il faut de plus en plus de temps pour retrouver une érection. Donc à 20 ou 30 ans, ça peut marcher. Quand vous avez 40 ou 50 ans, c'est compliqué parce que si vous avez une éjaculation peu de temps avant un rapport sexuel, vous risquez d'avoir une panne d'érection au moment du rapport sexuel et là, ça ne sera pas tellement réussi.
Alors j'entends un sourire dans votre voix. Je vais avoir un sourire dans la mienne, docteur Solano, grâce à cette question de Jean. Je ne me moque pas, mais je souris. Est-ce que le fait de porter des slips serrés peut diminuer la taille du pénis?
La réponse est claire et nette, c'est non. ça ne diminue pas du tout la taille du pénis. En revanche, ça peut être nocif pour la fertilité de porter des sous-vêtements trop serrés. Donc, si on veut avoir des enfants, on est en période où on veut un enfant, il vaut mieux éviter.
Alors, expliquez-nous pourquoi, docteur Solano.
Eh bien, parce qu'en fait, les slips ou les pantalons très serrés font remonter les testicules plus près du corps et ça les réchauffe. Or, il suffit qu'ils se réchauffent de 2 degrés, c'est pas beaucoup, hein, pour que les spermatozoïdes soient abîmés ou même qu'ils ne soient plus produits. D'ailleurs, c'est tellement efficace qu'il existe des techniques de contraception masculine qui font remonter les testicules très haut pour les réchauffer et diminuer les spermatozoïdes et éviter d'avoir des enfants. Bon, c'est encore assez peu pratiqué, mais
c'est le fameux slip contraceptif.
Voilà, il y a même un espèce d'anneau qui remonte les testicules, oui, oui.
Alors, une question de Mamadou à Bamako sur la forme du pénis. Il décrit un pénis en forme d'arc et se demande pourquoi est-ce que cela peut avoir des conséquences.
Alors, le pénis un peu recourbé, que ce soit vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, c'est normal, tout simplement parce que chaque sexe masculin a sa forme bien à lui. Et donc, quand il demande pourquoi, c'est comme si on posait la question « Mais pourquoi j'ai un nez en trompette et pas un nez dans le sens inverse ?» C'est comme ça, c'est la forme du corps de chacun. Et il n'y a aucune conséquence particulière. On a une sexualité tout à fait normale, même quand le pénis est courbé. Cela dit, je vais donner quand même une petite explication qui pourra servir à beaucoup de personnes. C'est que comme chaque sexe masculin a une forme différente, pour chaque personne, pour chaque homme ou chaque femme aussi, d'ailleurs, il y a des positions qui sont désagréables, des positions sexuelles, je veux dire, parce qu'elles peuvent tirer sur le pénis d'un côté ou de l'autre et faire mal. Et donc, chaque personne a des positions sexuelles qui lui conviennent et d'autres qui ne lui conviennent pas. Et donc, il n'y a aucune raison de vouloir redresser un pénis, sauf vraiment si la courbure est extrêmement importante et que ça gêne beaucoup. Moi, dans toute ma carrière, j'ai vu un seul cas comme ça, d'un monsieur qui avait le pénis tellement recourbé vers le haut que le gland touchait son ventre, rentrait dans son ventre, il avait même une callosité. Donc là, il a été opéré. Le problème, c'est que l'opération diminue la taille du pénis. C'est quand même pas rien de se faire opérer à cet endroit-là. Donc c'est vraiment rarissime, en fait.
En cas de gêne extrême. Alors, une dernière question, docteur Solano, c'est une question de John. Est-ce que la masturbation entraîne la stérilité chez l'homme ?
Alors, pas du tout. La réponse est claire et nette. La masturbation, ça n'entraîne rien de spécial. D'ailleurs, à 18 ans, 97% des hommes ont déjà pratiqué la masturbation. Et heureusement, ils ne sont pas stériles. Donc, la masturbation, ça n'a jamais rendu ni stérile ni malade.
Les 3%, c'est peut-être qu'ils ne le disent pas. Hein, les 3% de 97%.
Non, parce que figurez-vous que dernièrement, j'ai rencontré un jeune homme. Il m'a dit, moi, je n'ai jamais pratiqué la masturbation. Je n'ai jamais eu d'éjaculation. Et la première fois, ça a été avec mon ami. Il était venu me voir avec son ami. Il y en a quelques-uns quand même.
Qui ont une retenue absolue.
Ben, c'est peu. Hein, mais... Et donc, cela dit, il y a peut-être une raison pour cette question qui n'est pas si bizarre que ça. C'est que quand on doit faire un spermogramme, quand on veut un bébé, que ça ne marche pas, on fait un spermogramme et on demande aux hommes ne pas éjaculer pendant 3 jours. Tout simplement parce que c'est pour comparer les chiffres des spermatozoïdes, la quantité de spermatozoïdes avec des tables. Mais ça ne veut pas dire que si vous vous masturbez tous les jours, vous n'avez plus de spermatozoïdes. Il y en a toujours suffisamment pour faire un bébé parce qu'il y en a des dizaines de millions. Hein. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Et on vous retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Merci à toute l'équipe, passez tous à Maquet, Ophélie Lassen, grand coup de chapeau à Victor Hull, Raphaël Lazizi, imperturbable dans l'adversité. Demain, on vous proposera de réentendre l'émission Questions de femmes que nous avions consacrée à la souffrance au travail, burn-out, harcèlement, vos témoignages, vos questions. Il y aura bien sûr un spécialiste à votre écoute, ce sera à 9h10 temps universel. On se dit à demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.